Prions, s'il vous plaît, avant de commencer peut-être à enregistrer tout cela. Notre Père, tu nous places devant un texte ce matin pour nous rappeler là où nous étions, ce que nous étions et là où tu nous as conduits. Donne-nous d'être reconnaissants envers ton œuvre en chacun de nous, d'avoir les yeux fixés sur toi et de louer le Seigneur Jésus-Christ pour ce qu'il a fait à la croix. Père éternel, conduis-nous dans ces moments de l'étude, de la prédication de ta parole, l'application aussi de la parole dans nos cœurs, que nous ne soyons pas des auditeurs oublieux, mais que nous puissions entendre, écouter au fond de nos cœurs et aussi appliquer les vérités que tu as à nous dire ce matin afin d'être des serviteurs utiles entre tes mains, pour te glorifier, Seigneur, pour te connaître, pour t'aimer encore plus, te chérir dans nos cœurs. Merci pour la richesse de ta parole. Et Père, merci de nous bénir ici ensemble ce matin. Nous prions pour ceux qui ne sont pas là, que tu les gardes, que tu les fortifies, que tu les renouvelles, que tu parles à leur cœur. Peut-être certains s'éloignent, Seigneur, nous prions de les visiter par ton Saint-Esprit, de les rapprocher de toi, Père éternel, de bénir ceux qui souffrent, d'être auprès de ceux qui ont des difficultés, des épreuves, de les fortifier, de les encourager, de les relever par la puissance de ton Saint-Esprit. Merci Seigneur de ce que tu nous as pas laissé orphelins, tu nous as donné ton esprit. Et nous te bénissons parce que c'est un esprit de vérité qui veut nous conduire dans toute la vérité. Ta parole est la vérité. Et ta lumière, ta parole est comme une lumière sur notre sentier. Merci, Père, de nous éclairer. Parle à nos cœurs, car nous t'écoutons, Seigneur Jésus. Amen. Je vous invite, sans plus tarder, à tourner dans vos Bibles en Éphésiens, chapitre 2, verset 11. Et Dieu voulant, nous allons regarder jusqu'au verset 22. Éphésiens, chapitre 2, verset 11. C'est pourquoi vous, autrefois, païens dans la chair, appelés incirconcis par ceux qu'on appelle circoncis et qui le sont à la chair par la main de l'homme, souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Car il est notre paix, lui qui des deux n'en a fait qu'un, et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié, ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions. Il a voulu créer en lui-même avec les deux un seul homme nouveau en établissant la paix, et les réconcilier avec Dieu l'un et l'autre en un seul corps par la croix en détruisant par elle l'inimitié. Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin et la paix à ceux qui étaient près. Par lui, car par lui, les uns et les autres, nous avons accès auprès du Père dans un même esprit. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints gens de la maison de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice, bien coordonné, s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifié pour être une habitation de Dieu en esprit. En introduction, j'aimerais faire cette remarque. Quoi de plus troublant que de voir deux frères ou deux sœurs dans une même famille se chicaner ? Quoi de plus troublant que de voir un homme, une femme, mari et femme se disputer? Quoi de plus troublant de voir des peuples s'entretuer, se faire la guerre, des ethnies s'opposant les unes aux autres, et de voir finalement des barrières de classe, de nation, de racisme s'installer, et des murs s'ériger au travers des décennies. Vous savez que le président, certainement vous écoutez les nouvelles comme moi, de la Turquie va se rendre en Arménie Et vous savez que la Turquie n'a jamais reconnu le génocide d'1 million d'Arméniens tués. Et là, il y a un premier pas dans un contexte de sport où le président de la Turquie va se déplacer en Arménie alors qu'ils sont des ennemis jurés. Et vous avez certainement observé ou même vu à la télévision le mur de Berlin être détruit. Mais il y a encore des murs. Il y a le mur, par exemple, en Israël, n'est-ce pas, qui sépare les Juifs aujourd'hui des Palestiniens. Ici, dans ce texte, si on regarde le texte juste un instant, on voit que dans le chapitre 2, versets 1 à 10, on a parlé du salut, le mais de Dieu. Nous étions perdus, nous étions esclaves du péché, et Dieu est intervenu à cause de sa grande miséricorde, riche en miséricorde, verset 4, pour nous sauver. Il est question ici d'un salut personnel. On est sauvé par la grâce et ensuite on pratique les œuvres que Dieu a lui-même préparées d'avance afin qu'on le glorifie, non seulement sur la terre, mais un jour dans le ciel. C'est le but du salut. Et là, il est question maintenant du salut collectif, il est question du salut des païens. Mais pourquoi tout d'un coup parler du salut des païens? Parce qu'il y avait, à ce moment-là, une division dans l'humanité. Oh, il y en a beaucoup plus aujourd'hui, quelque part. Mais en tout cas, il y avait les juifs et les non-juifs, les païens. Et pour que Dieu unisse juifs et païens, il fallait que les païens se convertissent. Il fallait aussi que le juif entre pleinement dans la nouvelle alliance. C'est sous-entendu dans le texte ici. Et donc, Paul est en train de suivre la pensée de Dieu qui est extraordinaire. Dès le premier chapitre en Éphésiens, on est béni de Dieu dans les lieux célestes. On est adopté, on est prédestiné, on est élu, on est héritier, on est scellé du Saint-Esprit. Tout ça parce que Dieu a illuminé les yeux de notre cœur. Et comme on ne voit pas encore assez, Dieu met à cœur de Paul de prier afin que ces Éphésiens puissent vraiment avoir les yeux illuminés pour contempler vraiment toutes ces grandes vérités et les vivre. Et puis, il rappelle aux Éphésiens qu'est-ce qu'ils étaient et par le salut personnel, ce que Dieu a fait dans leur vie. Mais il reste un mystère que Dieu révèle à Paul qui commence au chapitre 3, c'est l'Église qui devrait être composée de juifs et de non-juifs. Donc cela n'est rendu possible que dans la mesure où les non-juifs se convertissent, les païens. Et donc l'apôtre Paul, au verset 14, après avoir parlé de la conversion des païens, versets 11 à 13, entre dans un texte charnière qui aboutit à l'Église, qui est l'œuvre de Dieu, où il y a l'unité dans l'Église, il n'y a plus d'hommes, il n'y a plus de femmes, il n'y a plus de scythes, il n'y a plus de barbares, il n'y a plus de grecs, il n'y a plus de romains, il n'y a pas de riches et de pauvres, il y a des gens qui sont unis par la croix de Jésus-Christ. Et c'est ce que Paul développe au verset 14 à 16, où il est question, par exemple, au verset 14, du fait qu'il a renversé le mur de séparation, qui des deux n'en a fait qu'un? Mais d'un côté le juif et le côté le non-juif, des deux qu'un. Verset 15, ça continue. Il a voulu créer en lui-même, avec les deux, un seul homme nouveau. Verset 16, on continue, et les réconcilie avec Dieu, l'un et l'autre en un seul corps. Et si vous continuez au verset 18, il est écrit par lui, les uns et les autres, nous avons accès auprès du Père dans un même esprit. Et si on tournait un peu plus loin dans l'épître aux Éphésiens, au verset 4 du chapitre 4, nous lisons, car il y a un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation, il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous et parmi tous et en tous. Il ne peut pas y avoir de plus grande unité. Si nous lisons les textes attentivement, on voit que le but de Dieu, c'est de vraiment placer le juif et le non-juif dans un corps et l'unir ensemble. Si on compare maintenant les chapitres 2, versets 1 à 10, on voit que le « autrefois vous étiez mort » correspond maintenant au verset 11, « autrefois païen dans la chair ». Le « mais » de Dieu, verset 4, « Mais Dieu qui est riche en miséricorde vous a rendu à la vie » correspond au « mais de Dieu » que l'on trouve aussi dans le texte que nous avons lu. « Maintenant, vous êtes sauvés » dans le verset 1 à 10. « Maintenant, verset 13, vous êtes rapprochés par le sang de Christ. » En fait, dans ce texte ici, si vous lisez le texte avec moi attentivement, on voit que c'est un texte où la place de Christ est dans tous les versets. Toutes ces expressions, Christ, il, lui-même, par lui, en lui, pour lui, tout ça se trouve dans ce texte. Il n'y a pas d'unité possible dans l'Église et parmi les hommes lorsque le Christ n'est pas parmi eux. C'est la première chose à retirer de ce texte. Il n'y a pas de paix parmi les hommes. Il y a tant de guerres. Pourquoi ? Parce que les hommes ne connaissent pas le Christ. Vous savez, les armées allemandes, alors peu importe la nation que l'on mentionne, les armées allemandes sont parties combattre les armées françaises et les armées françaises sont parties combattre les armées allemandes, chacune bénie par des gens religieux haut placés qui les bénissaient, n'est-ce pas, et priaient pour ces gens qui partaient à la guerre. Mais est-ce que c'est ça le Christ ? Si on se dit croyant, Dieu ne veut pas qu'on ait un esprit belliqueux de partir à la guerre. Il veut au contraire que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde nos cœurs et nos pensées et justement enlève tout esprit de querelle, enlève tout esprit de dispute, tout esprit de guerre, tout esprit de meurtre, de violence, d'inimitié, de jalousie, de haine. Et pourtant, c'est ce que nous vivons et observons autour de nous. Et même parfois, dans l'Église, il y a des divisions. Parce que le Christ n'est pas au centre. Moi, je suis émerveillé en regardant, en étudiant, en méditant, en lisant l'Épître aux Éphésiens et bien d'autres textes, bien sûr, frères et sœurs, de voir combien Christ est au centre du plan de Dieu et donc nous en avons tellement besoin. C'est par son sang, c'est par sa chair, c'est par sa croix que Christ a rapproché les païens et les a unis aux Juifs pour former un seul corps. Un jour ici, un samedi soir, nous avons eu la joie d'entendre, et l'Église était remplie à craquer, d'entendre des Juifs qui ont donné leur témoignage de conversion. Et on a chanté en hébreu. Et puis ensuite, on a entendu des Arabes convertis à Jésus-Christ. Et on a chanté en arabe les louanges de Dieu. C'est ça l'Église de Christ. Lorsque le Seigneur remplit le cœur par le salut, par le pardon des péchés, alors il y a une paix dans le cœur qui fait qu'il y a une paix parmi les peuples. Et je vous lis un passage en Galates chapitre 3 et verset 28, je vous le lis, qui dit « Il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme, car tous vous êtes un en Jésus-Christ. » Comme a dit un jour un prédicateur, le général d'armée, lorsqu'il vient à l'église, il laisse ses galons au vestiaire, et le simple soldat a la même valeur devant Dieu, et vous comprenez ce que je veux dire, et est égal au frère, même peut-être, qui apparemment est plus élevé. C'est révolutionnaire, cela. Vous savez, Che Guevara disait, si ma révolution n'a pas pour but de changer le cœur de l'homme, elle ne m'intéresse pas. La seule façon par laquelle Dieu peut accorder la paix, c'est que les cœurs soient transformés. Non pas par une révolution de violence, mais par une révolution interne du cœur qui fait que l'homme se tourne vers Dieu, se repent et se détourne de ses péchés, et notamment de l'orgueil qui est la racine de beaucoup de troubles dans nos vies et dans le monde. Dans ce texte ici, Paul a un commandement en Éphésiens où il est écrit « Souvenez-vous ». Pourquoi Paul dit à ses Éphésiens « Souvenez-vous » ? Parce que vous savez qu'on a la mémoire courte. On a la mémoire courte de ce que nous étions et ce que Dieu a fait dans nos vies. On s'endort sur notre salut. On ne loue plus le Seigneur d'être sauvé, d'être en route pour le ciel. On a oublié qu'on était en route pour l'enfer, qu'on était séparés de Dieu, qu'on ne connaissait pas le Seigneur. J'ai lu dans un commentaire ici, j'espère retrouver la page, de René Page, quelque chose que j'ai souligné, C'est René Pache qui dit ceci, une réflexion qui, je pense, est pertinente. Comment se fait-il que dans nos milieux religieux, la différence entre les perdus et les sauvés soit si peu marquée? On a atténué la perdition, on n'y croit plus guère. C'est pourquoi on ne se réjouit plus autant d'être sauvés. Puissions-nous être remplis à la fois de la joie ineffable du salut et d'une vive compassion pour les âmes perdues. C'est dans la mesure où on vit et on réalise notre salut et la joie du salut qu'on a envie que d'autres aussi connaissent le Seigneur. Est-ce que vraiment nous sommes dans la joie du salut? Alors, comment Christ a-t-il uni les Juifs et les païens? Premièrement, versets 11 à 13, par le salut des païens. Versets 14 à 16, par la réconciliation, on va regarder ça ensemble, et qui a pour résultat l'Église. L'Église qui est le chef-d'œuvre de Christ. Nous sommes son ouvrage, ayant été créé en Jésus-Christ, et ce chef-d'œuvre, c'est notamment l'Église que l'on voit décrite à partir de verset 19 au verset 22. Dans le texte ici, il est écrit que nous, les païens, autrefois païens, dans la chair, appelés incirconcis, par ce qu'on appelle circoncis, nous étions ceux-là. Et nous allons regarder un texte parallèle qui nous décrit ce que dit Paul au sujet des païens. Un païen, dans ce temps-là, c'était quelqu'un qui ne connaissait pas Dieu avec un grand D, le Dieu des Juifs. Ça ne veut pas dire qu'il n'avait pas des dieux, des petits dieux. Et même quand Paul se promenait à Athènes, il y avait une stèle où c'était écrit « Ah, un dieu inconnu ». Mais savez-vous que dans la mythologie grecque, les dieux étaient souvent des monstres? Je ne comprends pas qu'encore on pose des questions de culture sur la mythologie grecque, comme si c'était l'apanage de la culture de connaître les dieux grecs, qui sont souvent des dieux sadiques, monstrueux et violents. Alors que ce monde grec se prétendait meilleur que les autres, et de même que le juif s'est glorifié un jour en disant « Vous, les païens, ces incirconcis, n'est-ce pas ?» Bien, les Grecs disaient « Ces barbares ». Il y avait les Grecs, nous, et puis les autres. Mais vous savez, ça arrive encore qu'on entende des gens comme ça. Il y a nous, et puis les autres. Vous croyez que Dieu aime voir les choses comme ça ? Il y a nous les croyants, et puis ces espèces de païens inconvertis. On peut glisser aussi comme ça, et oublier d'où on est venu, et oublier que nous étions aussi perdus, pécheurs, liés au diable, liés aux esclaves du péché, jusqu'à ce que Dieu intervienne par sa grâce dans nos vies. Et c'est ce que dit Paul en Éphésiens, vous autrefois païens. Qu'était la description du monde païen d'alors? Je vous lis le texte en Romains chapitre 1. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété, toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil nu depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables, car ayant connu Dieu, le païen, Paul décrit le païen comme ayant connu Dieu de ses yeux, mais ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. D'ailleurs, la Bible dit, l'insensé dit en son cœur, il n'y a point de Dieu. La Bible dit que celui qui est athée, qui dit que Dieu n'existe pas, est fou. Devant Dieu, l'athée est quelqu'un qui a rejeté Dieu parce que dans son cœur, quelque part, il sait que Dieu existe, mais il le refuse parce que ses œuvres sont mauvaises. Ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté selon les convoitises de leur cœur. Ainsi, ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps et ainsi de suite. Et ils ont adoré les créatures plutôt que le Créateur. Et ils ont été plongés dans les ténèbres. Et même dans ce texte, vous le connaissez certainement, il est question d'homosexualité, aujourd'hui tellement banalisée. Et même on met des gens, des stars et des hommes politiques en avant, comme si leur homosexualité pouvait être, une norme glorieuse. Aujourd'hui, d'être normal, c'est anormal. Et d'être anormal, c'est bien vu. Mais c'est grave cela, quand l'homme appelle le mal bien et le bien mal. C'est grave. Et c'était exactement ce que vivaient les païens. Les païens, c'était les incirconcis. Vous savez, pour le juif, c'était un peu péjoratif et méprisant. David, quand il s'est présenté devant Goya, alors il l'a fait dans la foi, cette espèce d'incirconcis qui est en train de défier le Dieu d'Israël et le peuple du Dieu d'Israël, je vais l'exterminer. C'est comme ça qu'il s'est présenté devant le roi Saül, et tout le monde tremblait. C'est un petit berger qui est sorti de son troupeau de brebis, qui a eu la foi pour combattre Goya. Mais l'incirconcis, et Jonas, quand Dieu l'a appelé à la Ninive, vous croyez qu'il était heureux d'aller prêcher le salut à ces incirconcis qui avaient déjà envahi son pays parfois, et c'est vrai, tué et fait du saccage. Et Pierre, quand Dieu a dû lui envoyer un songe pour qu'il aille chez Corneille, parce que les incirconcis ont-ils droit au salut ? Alors, dans l'écriture ici de Paul, lorsqu'il dit « vous étiez incirconcis », c'est l'idée « vous étiez un non-juif ». Quelqu'un qui n'est participé pas à tous les privilèges des juifs qui ont eu le privilège des promesses, qui ont eu le privilège d'avoir les écritures, les prophètes. Je ne sais pas si vous réalisez ce qu'on est en train de discuter. Quelqu'un qui n'a pas Christ, quelqu'un qui n'a pas la foi, quelqu'un qui ne connaît pas Dieu, quelqu'un qui n'a pas de communion avec Dieu, qui ne s'adresse pas à Dieu, qui n'est pas exaucé par Dieu. C'est ça un païen. Il vit sans Dieu. Il vit sans Christ, nous dit le texte ici, parce qu'il n'a même pas l'idée qu'il y a un rédempteur qui existe. Un païen aujourd'hui, je me souviens, ça a été vraiment un choc pour moi. Quand je suis arrivé du Canada, il y avait une soirée de patinage que notre frère Charles Powers organise chaque année. Et mon fils avait invité un de ses copains de classe, je crois qu'il a à peu près, il avait 14 ans, et à la fin de la patinoire, il y avait les Gédéons qui distribuaient le Nouveau Testament. Et donc, mon fils s'est arrangé pour que son copain en ait un. Et quand on lui a parlé de Jésus-Christ, il nous a regardé, qui c'est ? C'est comme s'il n'avait jamais entendu parler. Est-ce que vous pensez que c'est possible, aujourd'hui, qu'on n'ait pas entendu le mot de Jésus-Christ ? Ou du moins ce qu'il a fait, qui il est, et quand il a vécu ? Il ne connaissait rien, élevé dans une famille complètement athée. Complètement athée, sans Christ. Mais ces gens-là, le jour où le malheur frappe à leur vie, à qui s'adressent-ils ? Ah, ils vont voir les médecins, les psychologues, les psychiatres, etc. Mais ils sont désespérés. Et les voyants, la France est un pays aujourd'hui qui est parmi ceux au monde qui voit le plus de voyants. Jour après jour, il y a des milliers de gens qui, en France, visitent des voyants pour avoir la bonne espérance de quelque chose de meilleur. Et ça ne leur arrive pas parce qu'ils sont sans Christ. Il a été donné aux hommes aucun autre nom par lequel nous puissions être sauvés et délivrés. Le païen qui vit dans son péché n'a pas accès à la délivrance parce qu'il n'a pas accès à l'espoir d'un rédempteur. Alors il y a ceux qui semblent vivre heureux, mais face à bien des épreuves, ils sont fragiles et superficiels. Ils ne tiennent pas. Les plus forts tombent, comme des géants au pied d'argile. Et puis, il est question ici dans ce texte de priver du droit de cité en Israël. Vous ne croyez pas qu'il y a quelque part en Inde quelqu'un qui cherche Dieu ? Vous ne croyez pas qu'en Afrique, fin fond de la brousse, il y a quelqu'un qui cherche Dieu ? Vous ne croyez pas que dans la faculté, ici, juste à côté de chez nous, il y a des gens qui cherchent Dieu, mais ils ne savent pas. Et Dieu voudrait les mettre en contact avec des croyants, avec, pourquoi pas, l'Église, afin qu'ils soient exposés à l'amour de Dieu, à l'amour des chrétiens pour eux. Mais ils ne connaissent pas. Et le cas des païens, c'était de ne pas connaître Israël, d'avoir aucun droit de cité, c'est-à-dire que finalement, ce peuple élu qui avait tout, non seulement c'était une communauté de Dieu avec tous ses privilèges, mais ils avaient aussi la loi, les 10 commandements, ils avaient la prêtrise, le sacerdoce, les sacrifices, où le juif croyant qui amenait l'animal devant le prêtre était pardonné sur la base du sang. Ils étaient complètement en dehors de tout cela. Les promesses, ils ne connaissaient pas la direction de Dieu, ils n'avaient pas la sagesse de Dieu. C'était des païens qui vivaient loin de l'héritage que Dieu avait confié en Israël. Puis ils étaient étrangers aux alliances de la promesse. Ils ne connaissaient rien d'Abraham. Et pourtant, Dieu a suscité avec Abraham une alliance et une semence de la postérité d'Abraham qui deviendrait qui ? La semence d'Abraham qui deviendrait le Christ et qui deviendrait aussi le peuple spirituel, non seulement en Israël, mais l'Église. Nous sommes des enfants d'Abraham. Lisez les Écritures, mes frères et sœurs bien-aimés, et vous êtes des enfants d'Abraham. Ils étaient donc privés de cette alliance avec Abraham, l'alliance avec Moïse, de la terre promise, de David. En fait, mais c'est exactement ce que nous voyons autour de nous, des gens qui ne connaissent pas Dieu, qui ne connaissent pas le plan de Dieu, qui ne connaissent pas l'Église, et qui ne sont pas bénis de la part de Dieu, et ils sont sans espérance. Pas étonnant qu'en France, nous soyons le pays au monde qui prenons le plus d'anxiolytiques. Parce que l'anxiété ronge les familles. Parce qu'il n'y a pas la paix, parce qu'il n'y a pas d'espoir. C'est sans espérance. Et des gens se suicident parce qu'ils n'ont pas d'autre solution, parce qu'ils n'espèrent pas un Messie qui va les délivrer, parce qu'ils ne le connaissent même pas. Et finalement, le texte termine ici, sans Dieu, sans espérance, et sans Dieu dans le monde, sans Dieu, avec un grand D, hein, parce que les dieux, il y en a plein. Il y a le dieu du football, hein, il y a le dieu du sport, on va le dire comme ça parfois, le dieu de la culture, le dieu de l'intelligence, le dieu de l'argent. Vous savez, les hommes se font... C'est pas la peine d'avoir une idole, une statue chez soi pour avoir inconsciemment une idole dans son cœur. Et pourtant, c'est la vérité. Et ils ont donc transformé la créature en Dieu au lieu d'adorer Dieu en esprit, en vérité. Et en Galates, Paul dit autrefois, « Ne connaissant pas Dieu, vous serviez des dieux qui ne sont pas de leur nature. » Rappelons-nous, parce que Paul le dit ici, souvenez-vous, qu'est-ce qui était dans notre vie qui remplaçait Dieu avant notre conversion ? Quelle était notre idole ? Quel était notre esclavage ? Quelle était notre misère ? Alors aujourd'hui, si vous êtes sauvés, vous pouvez dire, mais maintenant, verset 13, comme l'apôtre Paul, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous êtes rapprochés par le sang de Christ. C'est certainement, pour ma part en tout cas, un des plus beaux versets de la Bible. Nous avons été rapprochés de Dieu par le sang de Jésus-Christ. On ne peut pas exclure la croix. Vous savez, un jour, Billy Graham prêchait et il semblait qu'il y avait moins de conversions suite à ses prédications. Et il y a des frères spirituels qui sont allés le voir et qui lui ont dit, « Billy, pas qu'on l'appelait comme ça, mais admettons, Billy, ton message a changé. Tu ne prêches plus la croix. Il n'y a pas de conversion sans la croix. » Et moi, je suis parfois abasourdi de voir que les croyants ont parfois tendance à oublier la croix, le prix de la croix. C'est pour ça que Dieu a voulu qu'on prenne la table du Seigneur, pour ne pas oublier la valeur de la croix et du prix de Jésus-Christ qu'il a dû payer afin que nous soyons rapprochés de Dieu. J'aimerais que vous tourniez dans vos Bibles, tout d'abord en Romains, chapitre 3, et verset 24. Alors, c'est bien que dans certains messages, il y ait un peu d'enseignement quand même. Hein ? Romains, chapitre 3, verset 24 et 25. Il est écrit, « Ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. » C'est lui que Dieu a destiné à être par son sang pour ceux qui croiraient victime propitiatoire. Le prix que Jésus-Christ a payé, c'est verser son sang, afin que ce sang plaise à Dieu, être faire être victime propitiatoire, c'est rendre les hommes propices à Dieu sur la base du sang de la vie que Jésus a versé à la croix. En Éphésiens, dans le texte ici de notre livre, Éphésiens 1, verset 7, il est écrit « En lui, nous avons la rédemption par son sang. Quelqu'un d'autre a payé pour nous. » Est-ce que le matin, vous vous levez, et même le dimanche matin, et vous louez le Seigneur, que Dieu vous a racheté par son sang? Que vous venez à l'église parce que vous êtes un enfant de Dieu, racheté par le sang de Christ? Il y a en Hébreux, chapitre 9, et verset 22, vous pouvez tourner dans vos Bibles, ou je vous le lis si vous voulez, Hébreux, chapitre 9, et verset 22, nous lisons ceci, « Et presque tout d'après la loi est purifié avec du sang, et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. » Et je voudrais terminer avec 1 Pierre 1,19, qui dit ceci, « Mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau, sans défaut et sans tache, vous savez que ce n'est pas par les choses périssables, par de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés, de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères. Seul le sang de Christ peut nous rapprocher de Dieu. » Vous savez qu'il y a toutes sortes d'approches de Dieu dans ce monde. Il y a ceux qui sont même prêts presque à mourir ou à souffrir de n'importe quelle souffrance pour essayer de s'approcher de Dieu. Et dans les religions, il y a des gens qui vont faire des sacrifices énormes pour essayer enfin de gagner la faveur de Dieu, se rapprocher de Dieu. Nous, nous nous rapprochons, nous avons été rapprochés par le sang et c'est Jésus qui a versé le sang. C'est juste à croire vers lui. Alors ça, c'est ce que nous étions, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances, de la promesse, sans espérance, sans Dieu d'allemand. Vous êtes sauvés ce matin. Est-ce que vous pouvez vous souvenir qu'un jour, vous étiez sans Dieu? Quelle différence entre la tristesse et la joie, entre le désespoir et l'espoir, entre l'amertume et la douceur, entre la dispute et la paix, etc. Vous avez compris. L'apôtre Paul continue au verset 14, il dit « Car il est notre paix ». La paix, j'allais dire, ce ne sont pas par toujours les traités de paix qui sont signés à travers le monde. Dans la Deuxième Guerre mondiale, ou ceux qui ont vécu la Deuxième Guerre mondiale, ils ont dit ça, ça a été assez atroce, c'est la dernière guerre, c'est la guerre des dernières. Il n'y en aura plus. Savez-vous qu'il n'y a jamais eu autant de guerres déclarées depuis la Deuxième Guerre mondiale dans le monde? Bien, bien plus qu'avant. Parce que l'homme n'a pas trouvé la paix. Ce ne sont pas les traités de paix qui amènent la paix dans le monde. C'est une personne et c'est Jésus-Christ. La paix de Dieu, nous avons, il faut d'abord être sauvés. Et la Bible dit que quand nous sommes justifiés, nous avons la paix avec Dieu. C'est extraordinaire cela. Vous avez déjà connu la guerre avec quelqu'un, puis avoir la paix avec quelqu'un. Mais imaginez que Dieu est en colère contre vous parce que vous n'êtes pas sauvé. Et maintenant, vous êtes sauvé et vous avez la paix avec Dieu. Et qui plus est, maintenant, vous avez la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, toute connaissance. La paix de Dieu dans le cœur. J'aimerais vous poser une question. Est-ce que vous avez vraiment la paix de Dieu dans votre cœur? Est-ce que vous êtes en paix avec tout le monde, dans la mesure où c'est votre responsabilité? Mais est-ce que vous avez vraiment une vie de paix en vous et autour de vous? Est-ce que vraiment il y a la paix qui est en vous? Parce que la volonté de Dieu, c'est qu'il y ait la paix pour établir une meilleure relation avec les hommes. D'abord avec lui, puis ensuite avec les hommes, et notamment les païens, avec les juifs. C'est pour ça qu'il est écrit qu'il a renversé le mur de séparation. Alors, on peut dire que nous qui avons vécu la fin de la guerre froide, espérons qu'elle ne recommencera pas, mais le mur de Berlin qui a été renversé, certains ont collectionné certaines pierres, mais enfin, gloire à Dieu que ce mur de séparation entre deux peuples, dû, c'est vrai, aux conséquences de la Deuxième Guerre mondiale, un jour a été... s'est effondré. Mais vous savez, les Juifs, ils n'étaient pas faciles à vivre. Dans le temple, il y avait un mur qui séparait toute activité des Juifs envers les Goïs, les païens. Je vous lis ce que j'ai lu dans un livre qui dit ce qui était écrit sur ce mur. « Ne laissez pas un païen, un homme parmi les nations, aller au-delà de ce mur sous peine de mort. » Ça veut dire qu'un païen qui serait entré dans le temple, là où les Juifs adoraient, aurait été puni de mort selon la loi juive. Donc il y avait vraiment une séparation entre les juifs et les non-juifs. Imaginez un peu la tête des non-juifs qui auraient aimé se rapprocher de Dieu et qui ne pourraient pas. Il paraît que même il y a une jeune fille, j'ai lu ça dans un commentaire, qui un jour est allée voir un rabbin et qui voulait se rapprocher de Dieu. Comme elle était païenne, le rabbin lui a dit non, vous ne pourrez pas vous rapprocher de Dieu. C'est impossible pour vous. Vous ne pouvez pas vous rapprocher de Dieu. Alors ça, c'est du sectarisme. Et les juifs sont devenus sectaires. Et parfois, les croyants, nous sommes aussi sectaires. Et nous rejetons peut-être ceux qui auraient d'autant plus besoin du Seigneur. Alors, ces païens que nous étions, nous n'avions pas accès aux lois, à la loi notamment cérémonielle, la loi des ordonnances, la loi du sacrifice, les fêtes en Israël, etc. Et bien, ça crée une séparation. Ce mur de séparation, c'était la loi. C'était la loi que les Juifs disaient connaître, sous laquelle ils se protégeaient. Par la circoncision, ils pensaient, ça y est, qu'ils étaient purs et saints devant Dieu, alors que c'était qu'une circoncision physique et pas circoncision de cœur. Il fallait que la circoncision physique devienne une circoncision de cœur pour que cela plaise à Dieu, hein, même si c'était un signe d'une alliance faite avec Abraham, la circoncision de chair. Mais voyez-vous, ça crée une inimitié. Alors on sait par exemple quand Jésus a vu la Samaritaine, les Samaritains étaient vraiment en guerre avec les Juifs. Alors aujourd'hui, il suffit d'ouvrir des pages d'histoire et puis des pages d'histoire même contemporaines pour voir combien de peuples, de races, de couches sociales s'opposent les unes aux autres. L'inimitié, dans le dictionnaire, c'est un sentiment durable d'hostilité, une haine, une aversion. Je te hais d'une parfaite haine. Ben, c'est pas bien. Hein. C'est pas ça qui fait l'amour et la réconciliation et la paix. Eh bien, Dieu part, et c'est quelque chose que Dieu a voulu, par la chair de Christ, par sa croix, il a anéanti la loi, c'est-à-dire la division qu'il y avait entre les juifs et non-juifs et l'application de ces lois cérémonielles qui finalement n'amenait pas non plus le juif à la perfection. Christ a accompli, a aboli la loi juive dont les prescriptions d'une part condamnaient les hommes incapables de les mettre en pratique et d'autre part les divisaient entre eux en réservant le salut au seul peuple élu. Alors Christ a aboli cette loi, il a affranchi le monde de cette loi dans le sens qu'on ne peut pas l'accomplir, lui seul l'a accompli et tout simplement en l'anéantissant, ce pouvoir de cette loi, eh bien, il a renversé cette séparation entre les juifs et les non-juifs. Il a voulu créer en lui-même avec les deux un seul homme nouveau. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà lu ce texte, vous vous êtes posé la question, un seul homme nouveau, on parle d'un groupe des païens, on parle d'un groupe de juifs. Ici, on pourrait vraisemblablement comprendre que c'est une seule humanité, en tout cas en Christ, et donc c'est l'Église. Vous savez, c'est extraordinaire l'Épître aux Éphésiens, parce que la notion d'Église vient petit à petit, jusqu'à son apogée à partir du chapitre 3. Mais au chapitre 1, on a déjà le fait qu'on est scellé du Saint-Esprit, puis le fait surtout au verset 22 qu'il a tout mis sous ses pieds et l'a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Paul est en train de leur dire, mais l'Église, c'est la plénitude de Christ. Qu'est-ce que vous vivez? Est-ce que vraiment vous êtes remplis de la plénitude de Christ? Et puis là, il est en train de leur dire, l'Église, c'est l'unité entre païens. Et il ne pouvait pas y avoir d'antagonisme plus fort. C'est l'unité entre païens et juifs. C'est l'unité dans le corps de Christ. Est-ce que vraiment, nous vivons de cette unité? Et cette unité, elle vient par la croix, elle vient par la paix, elle vient par la réconciliation. Alors l'autre soir, on a parlé, vendredi soir, du pardon, c'était l'étude biblique, de l'étude biblique de la réunion de prière, il y a une différence entre le pardon et la réconciliation. Mais la réconciliation avec Dieu, c'est quand l'homme se tourne vers Dieu, il est réconcilié avec son Dieu, alors il est réconcilié avec les autres. Je vous ai déjà raconté l'histoire d'un homme qui frappait toujours son cheval, un homme d'un caractère méchant, mais qui s'est converti. Et quelqu'un a dit dans son village, même son cheval s'en est aperçu. Parce que la foi et le salut transforme. Et la Bible dit ici que nous avons été réconciliés avec Dieu parce qu'il est venu annoncer la paix. Le mot grec ici annoncé, c'est évangéliser. Il est venu proclamer la paix. Et l'évangile inclut la paix. Est-ce que nous vivons dans la paix, frères et sœurs? C'est important ce que je vous dis là ce matin. Parce que si nous ne vivons pas la paix intérieure devant Dieu, comment pouvons-nous vivre la paix intérieure dans l'Église? Comment pouvons-nous vivre la paix intérieure au travail? Face peut-être à un patron, nous dit la Bible, parfois ça peut arriver, de caractère difficile. Pourtant, Dieu nous demande de nous soumettre. Des collègues de travail pas trop agréables. Mais si on n'a pas la paix, comment on va réagir? On va réagir avec colère. Et la colère, la Bible dit, n'accomplit pas la justice de Dieu. La colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Il n'y a que la paix de Christ qui accomplit une œuvre. Vous savez, quand un croyant, dans une société dans laquelle il travaille, une entreprise, dans l'église, en famille, est en paix, il amène la paix. Le cœur de l'homme répond au cœur de l'homme. Si vous êtes harassé, aigre, amer, irrité, voire en colère, alors ça va se voir, les autres vont le voir. Mais si vous avez la paix de Dieu en tant que croyant, même les choses vont venir sur vous, comme on dit, comme l'eau glisse sur les plumes d'un canard, et vous n'en ferez pas une montagne, et peut-être que les autres vont voir que vous êtes différent, parce que justement, rempli de la paix de Dieu. C'est extraordinaire cela. Et pour nous montrer qu'il n'y a plus ni homme, ni femme, ni grec, ni barbare, ni scythe, ni ethnie particulière, ni race particulière, qu'on est égaux ensemble. La Bible dit, car par lui, les uns et les autres, nous avons accès auprès du Père dans un même esprit. Vous savez, c'était révolutionnaire ça, parce qu'à cette époque, il y avait des esclaves. Et les esclaves étaient considérés d'une valeur un peu plus élevé que le chien, que le chat, imaginez. Les esclaves s'aigrissaient contre leurs maîtres, mais les maîtres étaient parfois dictateurs envers leurs serviteurs, qui étaient des esclaves achetés. Pauvres êtres, c'était des êtres achetés qui devaient soumission totale à leur maître. Ils étaient comme achetés. À moins de découvrir la liberté ou d'avoir été racheté, eh bien, il restait là, comme esclave. Et il pouvait avoir un maître aisé, devenu croyant, et un esclave dans la maison, devenu croyant, devant Dieu. Ils étaient unis et ils étaient égaux. Pas de place pour la guerre, pas de place pour l'inimitié, que la place pour la paix. Car par lui, les uns et les autres, nous avons accès auprès du Père dans un même esprit. Imaginez, vous rentrez au travail demain matin, la première réunion que votre patron vous invite à assister, c'est une réunion de prière pour l'entreprise, pour une bonne relation entre les employés, pour etc. Ça changerait la vie, vous ne croyez pas? Imaginez cela, proposez-le demain matin en rentrant au travail. Et dites, mais vous devriez vous convertir, parce que si on mettait Dieu en premier, on aurait accès tous ensemble auprès de Dieu, et Dieu, même esprit, nous conduirait. Et comment se fait-il que nos réunions de prière sont si faibles? Est-ce que vous ne croyez pas qu'on a un même accès auprès du Père dans un même esprit pour intercéder, louer le Seigneur? Est-ce que vous croyez vraiment à la valeur de la prière, à la communion de Dieu? Est-ce que vous chérissez dans vos cœurs, plus que toute autre chose, la communion avec Dieu le Père en Jésus-Christ par le Saint-Esprit? Est-ce que c'est ça votre vie? Parce que vous avez peut-être oublié de qui, d'où vous êtes sortis et qui nous étions. Comme dit Paul, souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là. Et je voudrais terminer par les versets 19 à 22, juste en conclusion, parce que c'est dans le texte un peu le fil qui amène à Paul à conclure et qui va commencer à lui faire parler en détail de l'Église à partir du chapitre 3. Il décrit ces païens. Ainsi donc, vous païens, vous n'êtes plus des étrangers. C'est bon cela, vous avez été étrangers dans un pays, peut-être il y en a quelques-uns ici, ben c'est pas toujours facile d'être étranger. Moi, je l'ai été un certain temps. étrangers, eh bien, se sentir étranger, parfois, ben, se sentir un peu pas tout à fait comme il faudrait. Puis c'est jamais parfaitement, comment dire, l'osmose dans une nouvelle culture. Ça ne se fait pas du jour au lendemain. Vous n'êtes plus des gens étrangers. Vous n'êtes plus des gens de dehors. Ah bon ? Alors, je suis des gens de dedans. Nous sommes des gens qui pouvons largement participer à la bénédiction. Vous êtes concitoyens des saints. Ce n'est plus seulement les juifs qui sont des saints. C'est tous ceux qui acceptent le Seigneur. Ils sont une seule et même famille. Et nous sommes citoyens des cieux, nous dit la Bible. Nous avons une espérance vivante. On est concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. J'ai réalisé, moi, une chose dans ma vie pastorale. Frères et sœurs bien-aimés, quand quelqu'un accepte le Seigneur, il réalise qu'il est sauvé. C'est extraordinaire, ça. Et il y a de quoi faire des bonds de joie quand on est sauvé. Mais il y a une autre révélation qui, dans la vie chrétienne, doit se faire tôt ou tard. J'appartiens à une famille qu'est l'Église. Je suis une personne qui appartient à la maison de Dieu. La maison de Dieu, c'est une maison que Dieu bénit. C'est une maison qu'il bâtit. Il dit, vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Ça ne se bâtit pas n'importe comment. Jésus-Christ est la pierre angulaire. Alors, de suite dire, la pierre angulaire, ce n'est pas la clé de voûte que beaucoup pensent être, dans le sens qu'on fait un édifice, puis là, pof, on met la clé de voûte qui tient la voûte, n'est-ce pas ? Des fois, c'est décoratif, des fois, c'est vraiment le point d'ancrage des forces, n'est-ce pas, de la poutre. Non, la pierre angulaire, c'est une pierre qu'on posait sur le sol même et qui donnait toute l'orientation et l'angle de la construction. Et c'est à partir de cet angle que l'on mettait la fondation, et à partir de cette fondation, donc partie de cet angle, de cette pierre angulaire, que l'édifice était monté pierre après pierre. Alors, nous sommes bâtis sur le fondement des prophètes et des apôtres. D'ailleurs, Jésus-Christ, Paul dit aussi qu'il est le fondement, dont les apôtres et les prophètes qui ont fondé le fondement, ils l'ont fait en Christ. Et aux Corinthiens, il est écrit que nous devons veiller à rester sur ce fondement qu'est Christ et ne pas bâtir avec la chaume et le foin, mais sur les pierres, comme des pierres précieuses, sur Christ vraiment. Et donc, nous avons été édifiés sur ce fondement. Est-ce que nous y sommes toujours ? Est-ce que votre vie est réellement fondée sur Christ ? Est-ce que notre vie d'Église continue à être fondée sur Christ ? C'est une bonne remarque à faire. Et chacun de nous, nous bâtissons et nous amenons la force dans l'Église, dans la mesure où notre pierre vivante est posée vraiment sur le fondement et reste sur le fondement. En lui, tout l'édifice, en Christ, tout l'édifice bien coordonné. Donc c'est un édifice qui est vivant. S'il est coordonné, c'est qu'il est vivant. Il y a un plan, s'élève, donc c'est un édifice qui grandit pour être un temple saint dans le Seigneur. Et ce temple saint, c'est nous. D'abord parce que notre corps est devenu le temple du Saint-Esprit. Et aussi l'apôtre Paul dit en 1 Corinthiens, et là je voudrais vous lire le texte parce qu'il me semble que c'est très important. C'est en 1 Corinthiens 3, je vous le lis, un verset. « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu, que l'Esprit de Dieu habite en vous ? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint, et c'est ce que vous êtes. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu ? Et que l'Esprit de Dieu habite en vous. Il s'agit ici de l'Église. Non seulement le croyant, son corps est devenu le temple du Saint-Esprit parce qu'il est scellé du Saint-Esprit, mais l'Église est devenue le temple de Dieu habité par le Saint-Esprit. Donc notre Église, ici, l'Église de Christ dans le monde est l'habitation de Dieu. Où est-ce que les gens devraient voir Dieu si ce n'est dans nos vies, nos êtres qui sont habités du Saint-Esprit et l'Église de Dieu qui est habitée aussi du Saint-Esprit. Alors, en conclusion, tout simple. Premièrement, est-ce qu'il y a eu un maintenant ? Parce qu'il y a eu un autrefois avant, autrefois perdu. Est-ce qu'il y a maintenant sauvé ? Il faut s'assurer de cela. Deuxièmement, est-ce que vraiment j'ai découvert la paix de Christ et je suis en paix avec les hommes qui m'entourent, au moins dans le cœur ? Pour ne pas laisser la place à l'inimitié, qui est la colère, la violence, un sentiment très fort. Est-ce que le fait d'avoir été réconcilié avec Dieu, le mot ici grec réconcilié à l'idée d'être passé à une profonde hostilité, à l'amitié. Est-ce que Dieu est notre ami ? Et est-ce que les amis de Dieu sont nos amis? Est-ce que nous aimons les frères et sœurs comme les enfants de Dieu, avec toute paix, quels qu'ils soient? Et ensuite, est-ce que je réalise que Dieu a un chef-d'œuvre qu'il est en train d'accomplir, non seulement dans ma vie, mais dans son corps, dont il est la tête, qui est l'Église? Je fais partie de l'Église, et dans cette Église-là, j'ai une place où je peux toujours fonder sur Christ, être édifié, édifier les autres. Tel est le plan de Dieu dans ce passage, versets 11 à 22, qui nous révèle sa grâce et qui nous demande de ne pas oublier et donc de nous souvenir de qui nous étions pour comprendre ce que nous sommes devenus et ce que Dieu veut que l'on soit aujourd'hui. Prions. Notre Père, merci de ta parole, merci de nous enseigner dans nos cœurs. Et nous désirons être enseignés dans toute la vérité, ta parole est la vérité, nous désirons comprendre ce que tu as à nous dire. Et merci de la richesse, de la profondeur de ta parole. Nous inclinons devant toi, Seigneur. Permets-nous de nous souvenir de qui nous étions. Nous étions perdus, sans Christ, sans espérance, sans Dieu. Et dans la misère de notre péché, Seigneur, tu nous as rapprochés de toi par le sang de l'agneau qui ôte le péché du monde. Et tu as fait de nous des nouvelles créatures, des pierres vivantes maintenant, qui font partie de l'édifice, de l'Église, des membres d'un corps dont tu es la tête. Seigneur Jésus, glorifie-toi dans notre vie et glorifie-toi dans notre Église. Amen.